Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes. Notre invité aujourd'hui est Marc Lomazzi. Il est journaliste, ex-rédacteur en chef adjoint au Parisien, et il est l'auteur du livre noir des crimes environnementaux. Et c'est à ce sujet que nous le recevons. Marc Lomazzi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous voyez, vous venez donc de publier votre 4e ouvrage, je crois. C'est cela.
Oui.
Donc, chez Kalman Levy, il s'agit d'une enquête qui révèle en vous le journaliste, mais aussi l'intérêt que vous portez aux questions environnementales. Alors, vous avez publié donc un livre noir. Qu'est-ce que c'est qu'un livre noir ? C'est un livre qui révèle des exactions, des mensonges, des crimes même, des révélations en tout cas. Et il est le fruit de longues enquêtes, de recueils de témoignages. Alors, comment vous est venue l'idée de ce livre ?
En fait, dans les livres précédents sur le climat ou sur les groupes écologistes que j'avais publiés chez Flammarion ou chez Albin Michel, de nombreux interlocuteurs m'ont parlé des crimes contre l'environnement, qui était un sujet que je ne connaissais pas. Et à force d'entendre « tu devrais t'intéresser à la criminalité environnementale », j'ai fini par m'y intéresser avec l'idée que les mieux placés pour en parler, c'était probablement les enquêteurs des services de police judiciaire spécialisés qui traquent les éco-délinquants, qui essayent de démanteler les réseaux de trafic d'espèces, de trafic de déchets, de trafic de pesticides. Et donc, je suis allé pendant un an et demi à leur rencontre. Il s'agit de douaniers, de gendarmes, d'inspecteurs de l'Office français de la biodiversité ou d'enquêteurs de la Brigade nationale d'enquête vétérinaire.
Alors, dans l'avant-propos de votre livre, vous citez l'avocate Corinne Lepage qui, face à cette criminalité environnementale, pense que la France doit se doter d'une organisation aussi puissante que le FBI. Est-ce que c'est pas un peu exagéré ?
Non, c'est pas exagéré. C'est un débat qui agite les milieux policiers et judiciaires parce que on a une organisation aujourd'hui, comme je le disais, les services d'enquête sont très éparpillés entre la douane, la gendarmerie, l'OSB, etc. Et comme en phase 2, ils ont des réseaux criminels structurés, très organisés, qui sont parfois des réseaux qui dépendent des grands groupes criminels internationaux comme les cartels mexicains, les triades chinoises, la mafia bulgare, etc. Il y a la nécessité d'avoir en face de ces organisations un service national d'enquête qui regrouperait un peu l'ensemble des forces de l'ordre spécialisées dans les crimes contre l'environnement ou les atteintes à l'environnement et à la santé publique. C'est d'ailleurs une proposition qui a été faite également à l'issue d'un rapport qui avait été piloté par François Molins, le célèbre procureur qui s'est occupé de l'enquête des attentats de Paris. Donc voilà, c'est vraiment un vrai sujet. De même qu'il y a un autre sujet qui est-ce qu'il ne faudrait pas, face à cette criminalité environnementale, créer un parquet national environnemental, comme il existe un parquet national antiterroriste ou un parquet national sur les enquêtes financières.
Alors, on va y revenir, bien sûr. Pour l'instant, quand même, essayons de décrire un peu ces fameux crimes environnementaux dont vous parlez. On va bien sûr prendre que quelques exemples dans la mesure où ils sont nombreux. Alors, en fait, vous expliquez que tout commence souvent à Roissy. Alors, on verra qu'il y a d'autres exemples, bien sûr, mais à Roissy, dites-vous, dans le début de votre ouvrage, dans le premier et le deuxième chapitre, finalement, c'est à Roissy que commencent beaucoup d'enquêtes. Alors, bien sûr, les douaniers font partie de notre paysage et nous savons que les douaniers contrôlent ce qui est interdit de transporter. Mais vous expliquez en même temps qu'aujourd'hui, certaines des exactions finalement échappent à leur regard habituel et nécessitent qu'il y ait auparavant des renseignements, qu'on ait la puce à l'oreille, en quelque sorte. Alors, comment se passe effectivement, qu'est-ce qui aujourd'hui peut leur échapper? Vous parlez de viande de brousse, de végétaux, d'animaux. Alors, comment sait-il qu'ils aient plus de mal à détecter tout cela? Est-ce que vous pouvez décrire ou nous raconter une enquête un peu particulière?
Il y a deux filières, en fait, qui utilisent le transport aérien pour les trafics internationaux, alors essentiellement d'espèces protégées. Ça peut être des écailles de pangolins, des crânes de singes, des mygales, des plantes exotiques, des oiseaux rares, des tortues protégées, etc. Donc il y a deux filières. La première, ça consiste à dissimuler dans les valises des passagers ce qui peut être effectivement de la viande de brousse ou des animaux protégés.
Mais qu'est-ce que c'est que la viande de brousse, par exemple, interdite?
Comment?
La viande de brousse interdite, par exemple. Comment
oui,
c'est
ça
quoi?
Ça peut être de la viande de brousse. La viande de brousse, c'est un trafic, très souvent un trafic familial ou entre amis, mais qui est aussi aux mains de réseaux structurés parce que ça devient financièrement extrêmement intéressant. Ça consiste en fait à acheter sur les marchés à Libreville ou à Bamako de la viande d'antilope, d'agoupi qui est un gros rongeur, de chauve-souris, etc. De les faire mariner et de les envoyer empaqueter dans les bagages à Paris, où ils vont être revendus. Ils sont achetés quelques euros en Afrique et ils sont revendus entre 80 et 100 euros à des restaurateurs ou à des familles qui souhaitent organiser des grandes cérémonies familiales. Le problème, donc c'est très juteux, donc il y a des réseaux organisés. La difficulté qu'ont les douaniers, c'est que quand vous avez 10 vols qui arrivent d'Afrique le matin au terminal T2 à Roissy, et dans chaque vol, il y a 200-250 personnes. Ça fait une foule de gens qui arrivent avec un encombrement de bagages absolument terrible. Donc, ils savent très bien repérer d'éventuels contrebandiers. Mais ils sont un peu submergés par le flux. Ça crée des très vives tensions avec les populations venues d'Afrique qui accusent très souvent les douaniers de racisme. Donc, le ton monte. Donc, j'ai eu le directeur des douanes de Roissy qui me disait « On est très vite obligé de lâcher du lest parce que sinon, ça serait une émeute ». Donc voilà, ça c'est une difficulté.
Et alors, la différence va vers qui alors? Vous avez dit, bon, ils l'achètent à 2 euros à Bamako, et en fait, c'est revendu à 80 euros à peu près en France. Oui. Et qui bénéficie donc de cette différence financière?
Et ben, ce sont les réseaux structurés, ça peut être des réseaux criminels qui se mettent en place, et donc qui utilisent, comme dans le trafic de stupéfiants, des mules. Donc, on va prendre une jeune femme ou un jeune homme qui va ramener cette viande de brousse des pays d'Afrique. Il est, lui, rémunéré par ce réseau, quelques euros en général. Et puis, le réseau criminel va, lui, revendre ça à des restaurateurs, par exemple, ou à des épiceries spécialisées. Et évidemment, il encaisse le bénéfice. Quand je dis organisé, c'est vraiment très organisé. C'est-à-dire que, par exemple, la communauté africaine ou les gens qui souhaitent participer à ce réseau peuvent très bien, une fois qu'ils ont leur billet pour l'Afrique, un billet aller-retour, se rendre dans des lieux où ils vont rencontrer ces trafiquants, qui vont leur payer une partie de leur voyage en billet d'avion en échange de leur capacité d'emport. La capacité d'emport, c'est les bagages. Et les bagages, ça peut être, par exemple, deux grosses valises hein, que vous mettez en dessous de 32 kilos. Ça fait donc 64 kilos que vous pouvez emporter. À l'aller, vous pouvez, par exemple, emporter des médicaments et au retour, de la viande de brousse. Donc, c'est vraiment un trafic extrêmement, extrêmement organisé, extrêmement important. Et les douaniers ont beaucoup de mal à endiguer ce phénomène. Il y a eu un rapport parlementaire sur cette question du trafic des espèces protégées qui disait que ce trafic-là est complètement hors de contrôle avec des risques sanitaires extrêmement importants puisque dans la viande de pangolin, de porc épic ou d'autres animaux qui rentrent dans les ingrédients de la cuisine africaine, vous avez des animaux qui peuvent être porteurs de virus hein, comme le virus Ebola et donc c'est une bombe sanitaire en puissance. Donc voilà, ça c'est la première filière, c'est les bagages.
Alors la deuxième filière donc que vous évoquiez.
La deuxième filière, ce sont les avions cargo, et donc là ce sont les bagages en soute, hein, des avions cargo, enfin c'est pas des bagages, là, pour le coup ce sont des envois en gros colis. Alors vous avez beaucoup d'animaux, hein, animaux à sang froid, les serpents, etc., ou bien des plantes exotiques qui valent parfois très très cher, qui ne craignent pas du tout le froid, ils se mettent en hypothermie, et donc ils ne craignent pas le froid, et donc ça... Ce sont les voyages dans les avions cargo. Vous avez également toutes les parties
d'animaux. Alors, je suppose que ça, c'est plus facile quand même. Je suppose que cela, c'est plus facile à détecter. Je suppose.
Eh ben non, parce que non. Alors là, la difficulté, c'est ce qu'un douanier a appelé le syndrome Amazon, c'est-à-dire qu'il y a une telle quantité de colis qui arrivent dans les zones de fret à Roissy, il est très très difficile. On peut pas tous les ouvrir. Donc le douanier doit compter effectivement sur des renseignements, alors ça peut être des renseignements d'indicateurs, ça peut être aussi des renseignements qui leur sont fournis par l'analyse statistique des fraudes précédentes ou des enquêtes précédentes, qui leur permet de voir que par exemple si vous avez des colis qui arrivent du Cameroun et qui sont à destination des États-Unis, ça peut être suspect. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de trafic dans ce sens-là, et donc bah là ils ont des renseignements et ça leur permet de fouiller des colis pour essayer de découvrir des trafics avec parfois des choses extrêmement surprenantes que découvrent les douaniers.
Alors bien sûr, on sait que les associations, notamment le WWF, hein, ont tenté ou font en tout cas de la formation des douaniers. Donc ce serait complètement insuffisant.
Oui, c'est-à-dire que c'est un trafic qui augmente de manière phénoménale hein, et qui est tellement volumineux c'est une difficulté extrêmement importante pour les douaniers. Ensuite, la deuxième difficulté, effectivement, quand vous avez par exemple des plantes exotiques qui font l'objet d'un trafic, parce que c'est un trafic extrêmement rémunérateur, vous pouvez trouver des cactus, par exemple, que vous achetez quelques euros en Indonésie ou au Mexique, mais qui se revendent auprès des collectionneurs, des amateurs de plantes exotiques très très chères. Et donc là, bah, il faut savoir reconnaître quelles sont les espèces qui sont protégées. Alors je disais des cactus, ça peut être aussi des palmiers nains de Madagascar ou des succulentes de Madagascar qui se revendent extrêmement cher. Donc là aussi, il faut savoir les reconnaître. Ou quand vous avez des serpents ou des mygas, des araignées ou des scorpions, bah là aussi il faut reconnaître les espèces qui sont protégées, celles qui ne sont pas. Et donc il y a des formations qu'on appelle des formations CITES. CITES, c'est l'acronyme pour la Convention de Washington sur les espèces protégées. Donc les douaniers ont des formations spécifiques sur les espèces protégées. Vous avez des douaniers spécialisés dans les trafics CITES.
Alors, vous évoquez un peu plus loin aussi, bien sûr, le trafic des pibales. Alors, je rappelle que les pibales, ce sont ces petites anguilles qui viennent naître et se reproduire en Gironde. Et comme les Chinois sont très friands d'anguilles, malheureusement, ces petites anguilles, on ne sait pas aujourd'hui les reproduire. Donc, forcément, on les vole en Gironde, on les envoie ensuite en Chine, et là, ils sont consommés. Alors, ou on les consomme encore sur place en tant que petites anguilles. Alors, je ne comprends pas très bien, parce que il y a 20 ans, quand moi, je m'occupais du magazine Gaïa sur France 5, on avait déjà tourné le vol des pibales. C'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il semblerait que ce trafic augmente quand on lit votre ouvrage. Donc, rien n'a été fait.
On ne parle pas tout à fait de la même chose.
Les pibales, c'est les civelles, c'est pareil.
Il y a quelques dizaines d'années, la pibale, comme on l'appelle dans le sud-ouest, ou la civelle, comme on l'appelle en Vendée ou en Charente-Maritime, dans les sphères de la Loire, même dans le sud de la Bretagne, c'était un peu le plat du pauvre. Il y avait une petite contrebande familiale, ou entre amis, où on se revendait de la pibale ou de la civelle, parce que
ça partait déjà en Chine à cette époque quand même, hein.
Oui, mais là on parle d'autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, ce qui intéresse essentiellement les Japonais, ce n'est pas la civelle, c'est l'anguille. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque au terme d'un cycle de vie d'ailleurs absolument fascinant de l'anguille, puisque l'anguille part de la côte, de la façade atlantique de la France, pour aller se reproduire en mer des Sargasses, et puis les larves ou les alevins d'anguilles reviennent portées par les courants du Gulf Stream sur nos côtes, et puis grandissent pour redevenir des anguilles. En 2009, ça a été considéré, l'anguille, comme une espèce protégée. En 2010, interdiction de l'exporter hors de l'Union européenne. Or, dans le même temps, les Japonais, encore une fois, sont extrêmement, extrêmement friands d'anguilles. Le kabayaki, les pochettes d'anguilles au Japon, c'est un plat vraiment extrêmement populaire et extrêmement... c'est un des ingrédients majeurs de la cuisine japonaise. L'anguilla japonica a été tellement surpêchée qu'elle a disparu. Et donc, il a fallu trouver de l'anguille, et ils sont tombés sur l'anguilla anguilla, l'anguille européenne, qui est d'ailleurs la plupart une anguille française. Et donc, s'est mis en place un réseau, à partir des années 2010-2015, un réseau aux mains des triades chinoises, qui consiste à aller récupérer auprès des pêcheurs professionnels qui vont vendre sous le manteau des civelles. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur de prix, un pêcheur français peut vendre hors quota au marché noir de la civelle 300 à 400 euros le kilo, à un mareyeur espagnol ou établi en Espagne la plupart du temps, qui va lui-même le revendre à des intermédiaires chinois 800 à 1000 euros, et ces intermédiaires chinois vont l'expédier dans des fermes piscicoles en Chine, où là, tout à coup, le prix est passé à 5000 euros le kilo, et dans un kilo de civelle, vous avez 3000 anguilles. Ces anguilles, ces civelles vont être engraissées dans d'énormes fermes piscicoles, transformées en anguilles, et ces anguilles vont ensuite être vendues dans les marchés aux poissons des grandes métropoles japonaises pour alimenter donc les restaurants et la gastronomie japonaise. Et là, ça se revend 35 à 40 000 euros le kilo. Alors... Donc, vous voyez, on passe de 400 euros le kilo pour le pêcheur vendéen ou de Loire-Atlantique a revendu ça à ses réseaux, à 30 000 ou 40 000 euros le kilo. Donc évidemment, ça rapporte presque autant que le trafic de cocaïne. Et donc ce sont les grandes organisations criminelles qui se sont emparées de ce trafic. Et donc vous avez tout l'arsenal du réseau criminel. C'est-à-dire que pour aller chercher ces fameuses civelles ou ces pibales, on envoie des mules qui viennent du Vietnam ou de Thaïlande. Ils vont arriver en France, en Belgique ou en Espagne, près des aéroports, où là, les trafiquants vont leur remettre les valises qui sont spécialement aménagées, recouvertes de polystyrène avec des poches de glace, dans lequel on met les civelles, et ces mules, comme dans le trafic de stupéfiants, vont repartir vers Hong Kong ou vers Shanghai, et ensuite ça va rejoindre des fermes piscicoles dont je parlais tout à l'heure. Vous avez donc ces mules, vous avez des go fast, exactement comme dans le trafic de stupéfiants, parce que le marailleur espagnol l'a revendu à l'intermédiaire chinois. Eh ben, il envoie des go-fast vers l'aéroport de Madrid ou vers l'aéroport de Roissy. Donc on a eu des arrestations extrêmement spectaculaires avec le GIGN qui arrêtait ces go-fast, exactement comme dans le trafic de stupes. Vous avez des circuits de blanchiment et vous avez des intermédiaires qui sont payés via des comptes offshore avec des sociétés basées aux Caraïbes qui établissent des fausses factures, etc. Donc on est face à une criminalité extrêmement importante, ça rapporte des milliards d'euros, le chiffre rien que pour l'Europe, c'est 3 milliards d'euros par an que ça pourrait rapporter les très bonnes années, et puis les enquêtes qui s'appellent Civelle 40, Anguilla 33, les grandes enquêtes menées par l'Office national antifraude des douanes, l'OSB, l'Office central de la gendarmerie qui s'occupe des atteintes à l'environnement, montrent qu'on est là dans le très haut spectre de la criminalité.
Alors, je veux simplement dire à nos auditeurs que ce type d'enquête que vous avez menée et que vous venez de nous décrire sur les civelles ou les pibales, vous conduisez ce type d'enquête sur de nombreux domaines, le bois, la pêche, etc. Malheureusement, le temps qui nous est donné ne nous permet pas d'entrer dans le détail de toutes ces enquêtes. Hein. Donc, je vous en supplie, allez les voir et c'est vraiment passionnant. Mais ces enquêtes vous ont conduit à découvrir aussi des mondes inconnus qui chaque jour se transforment, des réseaux qui se perfectionnent. Alors, vous décrivez comme ça, des situations de plus en plus violentes. Alors, notamment chez les écologistes, qui se radicalisent de plus en plus, mais aussi, par exemple, les agriculteurs, on l'a vu récemment, qui menacent les agents de l'OFB, enfin de l'Office donc, de contrôle de la biodiversité, qui sont chargés de la surveillance des normes ou des lois. Donc, en fait, en travaillant sur ces trafics, vous découvrez aussi des pans entiers de la société qui sont en train de se transformer.
Oui, si on prend l'exemple de l'agriculture, effectivement, les enquêteurs, que ce soit les enquêteurs de la Brigade nationale d'enquête phytosanitaire de l'OFV ou les gendarmes, dans leurs récits, ceux que j'ai rencontrés m'ont raconté qu'effectivement, il y a une face noire de l'agriculture qu'on connaît peu, qui est l'utilisation par certains agriculteurs. Et je raconte dans le livre effectivement des grandes affaires qui ont été traitées par ces services d'enquête, des réseaux de contrebande de produits phytosanitaires interdits en France qui sont utilisés par des agriculteurs. Hein. Évidemment, la plupart font très correctement leur métier, mais certains n'hésitent pas à enfreindre la loi parce qu'évidemment, leur modèle agricole est basé sur les pesticides et des engrais de synthèse, et donc ils ont besoin absolument de se procurer, enfin d'après eux, dans leur modèle économique, ils ont besoin de se procurer ces pesticides, alors qu'il existe par ailleurs d'autres des alternatives. Mais voilà, il y a des grands réseaux qui se sont mis en place, et effectivement, on découvre au fil des enquêtes que, par exemple, il existe des usines de fabrication de pesticides de contrefaçon établis dans les pays de l'Est, avec des réseaux extrêmement complexes où les produits, la matière active, la substance active des pesticides arrive d'Inde ou de Chine, est transformée dans ces usines clandestines, et reconditionnée en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et puis, vous avez tout un réseau qui se met en place, et c'est ce que j'appelle effectivement la face noire de l'agriculture française.
Alors, c'est passionnant. Vous évoquez aussi, j'aurais bien voulu qu'on travaille un peu avec vous sur les problèmes de la pêche illégale, mais ça nous emmènerait un peu loin, parce que je voudrais qu'on parle aussi de tous les crimes qui naissent aujourd'hui. Alors, simplement une petite question sur la pêche illégale, et je renvoie pour en savoir plus à votre ouvrage, mais est-ce que vous pensez qu'on va y arriver dans la gestion de ce fléau ?
C'est très compliqué parce que je disais tout à l'heure que dans le cas de la civelle, ça rapporte autant que le trafic de cocaïne, et vous avez beaucoup d'espèces protégées qui rapportent effectivement autant que le narcotrafic. On peut penser à un poisson qui vit dans le golfe de Californie qui s'appelle le totoaba, dont on utilise la vessie.
La coupa en Guyane, hein. c'est le même. Et la coupa en Guyane.
Alors, il y a le totoaba qui est la coupa McDonald's de Californie. Et puis, les trafiquants ayant été très très forts, ça commence vraiment à s'amenuiser. Ça vaut sur place 20 dollars. C'est revendu jusqu'à 60 000 dollars en Asie. Donc vous voyez, le ratio financier est extrêmement important. Donc là, c'est aux mains des cartels mexicains. Et ils sont allés tellement fort qu'ils se sont aussi repliés sur un autre acoupa, qui est l'acoupa rouge, qui lui vit au large des côtes de Guyane. Et la marine française, la gendarmerie maritime ont face à eux des réseaux criminels, parce que ça rapporte tellement d'argent que les réseaux criminels s'y sont mis. Et donc c'est très très compliqué. J'ai rencontré pour ce livre Paul Watson.
Je suis désolée, mais malheureusement on va pas avoir le temps d'en parler plus longuement. Et je voudrais qu'on revienne un peu, parce que chaque jour naissent de nouveaux crimes et nous avons peu de temps. Donc vous avez travaillé sur le détournement des fonds qui sont liés à toutes les lois et toutes les mesures qui visent à contrer le réchauffement climatique, donc essentiellement sur la rénovation des... Alors, on a beaucoup parlé, bien sûr, de la taxe carbone et de tout ce qu'elle a entré, mais là, vous intervenez-vous sur la prime Rénov', donc quelque chose qui nous paraît pourtant très quotidien et très proche de nous.
Oui, la prime Rénov' est un dispositif qui visait donc à financer les travaux pour les Français qui souhaitaient changer leur système de chauffage, isoler leur toit ou leurs fenêtres, etc. Le problème de MaPrimeRénov', c'est que vous pouvez faire appel à un intermédiaire, qui est en général un artisan du BTP, qui va lui toucher la prime Rénov', et vous la déduire de votre facture. Les gens qui ont l'habitude de faire des arnaques, par exemple les carrousels de TVA comme on l'a vu, ou les arnaques à la taxe, à la TVA, comme on a vu dans la fameuse affaire des arnaques de ce qu'on a appelé le casse du siècle sur l'arnaque
de la taxe carbone.
Et bien ces mêmes escrocs se sont tout de suite aperçus qu'il suffisait de créer de fausses entreprises avec des faux contrayants pour percevoir cette prime Rénov'. Et donc, la première année, la prime Rénov', c'était 2,5 milliards de budget. Il y a 400 millions, immédiatement la première année, qui ont été détournés par des escrocs qui sont extrêmement malins, qui savent tout de suite utiliser les failles du système, de même qu'ils se sont engouffrés dans les certificats d'économie d'énergie. Partout où il y a de l'argent et de la réglementation publique, il y a toujours une faille qui permet aux escrocs de s'y engouffrer et de détourner des centaines de millions d'euros. Et MaPrimeRénov', pour prendre cet exemple-là, a été très souvent remaniée, réduite, voire suspendue. La raison officielle, c'était des raisons de budget. L'autre raison, c'était qu'il y a une fraude tellement massive sur ces dispositifs, que l'État se fait littéralement piller. Et on est dans les mêmes ordres de grandeur et avec parfois les mêmes personnages, dont le célèbre Marco Mouli, qui a trempé aussi dans cette escroquerie une fois qu'il était sorti de prison. Et donc, on a l'impression que l'État n'apprend pas de ses erreurs.
Alors, on va être obligé malheureusement de se quitter. Donc, je voudrais d'abord vous remercier pour toutes ces interventions. Je rappelle que votre ouvrage se lit comme un polar. Malheureusement, il repose sur de vraies exactions. Elle réclame une meilleure organisation de notre réglementation. Elle dénonce des failles béantes dans le système de nos aides publiques, ce que vous êtes en train de de nous expliquer. Les arnaqueurs, en bons chasseurs de primes, guettent ces occasions, s'organisent. Le copinage, la collusion, ça existe. En tout cas, je conseille à tous nos auditeurs la lecture de votre ouvrage. C'est passionnant, c'est encore mal connu. Et je rappelle qu'il est publié chez Calman Lévy. Au revoir, Marc.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous. Donc, à tous, bon week-end et à la semaine prochaine.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.